VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 21 novembre 2017. Concert de klaxon dans les rues d'Harare, cris de joie et applaudissements au Parlement zimbabwéen pour saluer la démission de Robert Mugabe. Plus de 50 morts dans un attentat suicide à Moubi au Nigeria. 15 blessés dans des affrontements entre jeunes et policiers à Conakry. L'ancien ministre sénégalais Cheikh Gadio, inculpé aux États-Unis pour corruption de hauts responsables tchadiens et ougandais. Mouzé Bihi déclaré vainqueur à la présidentielle de la République autoproclamée du Somaliland. Et la Minute Écho et les sports, ce sera juste après le journal. Une page de l'histoire se tourne au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe a remis sa démission après 37 ans de pouvoir, a annoncé le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare qui débattait de sa destitution. Jacques Aristide.
Cris de joie et applaudissements au Parlement zimbabwéen, les députés n'ont certainement pas caché leurs sentiments à l'annonce surprise de la démission de Robert Mugabe ce mardi, annonce faite par le président de l'Assemblée Jacob Mudenda. Son départ intervient alors que les députés et les sénateurs étaient réunis en congrès extraordinaire pour débattre en urgence d'une motion de destitution de Mugabe, qui était jusque-là le plus vieux chef d'État de la planète à 93 ans. La rue est également liée. Plusieurs centaines de manifestants réunis devant le Parlement dans la capitale zimbabwéenne. De nombreux Zimbabwéens se disaient épuisés par le régime autoritaire de Mugabe et par la crise économique interminable. Dans sa lettre de démission, Robert Mugabe écrit remettre formellement sa démission avec effet immédiat depuis le coup de force de l'armée il y a une semaine, provoqué par la révocation du vice-président Emmerson Mnangagwa. Le président Mugabe avait perdu un à un ses soutiens. Robert Mugabe, héros de la guerre d'indépendance, a dirigé son pays d'une main de fer. Il est accusé d'avoir muselé l'opposition et ruiné l'économie du pays pendant son long règne de pratiquement 40 ans.
Pour une première analyse sur la démission du président zimbabwéen Robert Mugabe, Raissa Girondin a joint John Stewart, vice-président du Forum des ONG pour la défense des droits de l'homme au Zimbabwe.
Oui, il y a beaucoup de bruit, les gens sont sur les rues. Il y a une célébration pour qu'il quitte, parce que depuis un certain temps, on attendait que le Parlement, qui a commencé à faire le processus de le renvoyer, maintenant a suspendu sa session, parce que le président du Parlement a lu une lettre qu'il a reçue de Mugabe, qu'il va quitter la présidence du pays. Et donc, il y a une célébration qui commence, il y a des bruits un peu partout.
Mais qu'en sera-t-il, justement, de la transition?
En fait, pour le moment, il est probable que le président du Parlement sera le président intérimaire, M. Jacob Mudenda. C'est le processus qui est indiqué dans la Constitution, fait que quand le président démissionne, le président du Parlement prend le pouvoir intérimaire. Mais il est indiqué que le parti qui a nommé le président, en fait, le parti dont l'ancien président a appartenu, et donc c'est le parti ZANU-PF, a le pouvoir de nommer un de ses membres comme président intérimaire juste aux élections prochaines.
John Stewart, vice-président du Forum des ONG pour la défense des droits de l'homme au Zimbabwe. Retrouvez toutes les dernières infos en images et vidéos sur notre site internet voaafrique.com. Au Nigeria, un attentat suicide a fait au moins 50 morts dans une mosquée ce matin. L'attaque est attribuée à Boko Haram. Blanche Sanou. L'explosion s'est produite durant les prières du matin à la mosquée de Madina à Moubi, ville frontalière du Cameroun. En effet, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières, a précisé le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar. Selon ses responsables, au moins 50 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans cet attentat qui n'a pas été revendiqué mais porte la marque de Boko Haram. Aboubakar Soulé, qui habite près de la mosquée, a raconté qu'il venait juste de rentrer chez lui quand il a entendu la bombe exploser. « J'étais là durant les opérations de secours et 40 personnes sont mortes sur place et plusieurs autres ont été amenées à l'hôpital avec des blessures graves et mortelles », a-t-il souligné. De nombreux blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence, selon les différentes sources qui n'ont pas pu en préciser le nombre. C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré dans la région du Nord-Est depuis une embuscade tendue en juillet contre un convoi pétrolier qui avait fait 70 morts.
On l'apprend tout juste ce mardi, le Pentagone indique qu'une frappe américaine a tué plus de 100 combattants en Somalie. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Une quinzaine de personnes au moins ont été blessées ce mardi à Conakry où des affrontements ont opposé pour le deuxième jour consécutif les forces de l'ordre à des jeunes manifestants dénonçant la situation dans l'éducation. Au lendemain du décès d'un jeune de 17 ans tué par balle lors d'une manifestation, ces incidents violents ont éclaté dans plusieurs quartiers. Des centaines de jeunes ont brûlé des pneus, renversé des poubelles et affronté les forces de l'ordre avec des pierres et des frondes. La police a répliqué en faisant usage également de pierres ainsi que de gaz lacrymogène et en effectuant des tirs de sommation. Le responsable d'une ONG basée à Hong Kong et en Virginie aux États-Unis ainsi qu'un ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères ont été inculpés par la justice américaine dans une affaire de corruption de hauts responsables au Tchad et en Ouganda. Chipping Patrick Ho et Sheik Gadjo sont accusés d'avoir corrompu pendant plusieurs années des hauts responsables de ces pays afin d'obtenir les avantages pour une entreprise pétrolière chinoise. Les pots de vin représentent plusieurs millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice. On en reparle dans la deuxième partie de cette émission. 6 préfets centrafricains parmi les 16 nommés fin août n'ont toujours pas réussi à rejoindre leur préfecture d'affectation faute de moyens logistiques et en raison de l'insécurité, a indiqué le ministre de l'administration du territoire Jean-Serge Bokassa. Il s'agit des préfectures du Ombomou, de la Nana Gribizi, des Hautes et Basses Coteaux, de la Vakaga et de la Bamingi Bangoran où des groupes armés sont présents. Le premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri est arrivé ce mardi au Caire pour s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Monsieur Hariri vient de France où il était arrivé samedi après avoir quitté Riyad d'où il avait annoncé sa démission surprise du gouvernement libanais le 4 novembre. Il est attendu mercredi à Beyrouth.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a vanté les succès militaires du président syrien Bachar al-Assad qu'il a reçu au moment où, selon lui, la guerre menée par Damas et l'armée russe touche à sa fin. Plus de 98% du territoire syrien se trouve sous contrôle des forces gouvernementales syriennes. Les terroristes ont encore des foyers de résistance, mais ils s'éteignent vite, a insisté le président russe en recevant son homologue tchèque Miloš Zeman. Monsieur Poutine multiplie les contacts à quelques jours de pourparlers à Genève le 28 novembre visant à mettre fin à la guerre. L'administration de Donald Trump a supprimé le statut spécial permettant aux Haïtiens en situation illégale de rester sur le sol américain et de pouvoir travailler. Cette mesure a été instaurée en 2010 à la suite du tremblement de terre qui avait détruit Haïti. Eric Manirakidza.
Quelques 58 700 Haïtiens bénéficient de ce statut de protection temporaire appelé TPS. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a fixé la fin de ce programme au 22 juillet 2019. Jusque-là, les Haïtiens pouvaient rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et travailler légalement. Désormais, ils n'ont qu'un délai de grâce de 18 mois pour organiser leur départ. Ceci ouvre la porte à leur expulsion. D'après Ellen Duke, ministre intérimaire à la Sécurité intérieure, ils pourront également réclamer un statut migratoire légal en cas d'éligibilité. Le gouvernement de Port-au-Prince est prié de préparer le retour et la réintégration de ses citoyens. Cette décision a été signifiée récemment au ministre haïtien des Affaires étrangères Antonio Rodrigue et à l'ambassadeur haïtien aux États-Unis Paul Altidor. L'administration américaine estime que les conditions économiques et sécuritaires en Haïti ne nécessitent plus que ses ressortissants restent sur le sol des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Solange Niamoulissa.
La puissante entreprise étatique minière congolaise Gécamines a accusé ses partenaires étrangers de voler la République démocratique du Congo après avoir été elle-même mise en cause dans deux rapports par des ONG. Le président du conseil d'administration Albert Yuma, un proche du président Joseph Kabila, a déclaré que leurs partenaires les ont trompés et volés depuis 15 ans. Il a demandé au cabinet Ernst & Young de repenser l'organisation de la Gécamines pour mieux contrôler le partenariat étranger. Selon un rapport du ministère des Ressources minérales, l'avenir du secteur minier du Botswana est en péril car 8 mines ont été fermées depuis 2010 et plus de 7000 emplois sont perdus. Selon le ministre des Mines, Sadiq Kebonang, certaines mines sont toujours en liquidation alors que d'autres ont été rouvertes. Il a déclaré que la perte d'emplois due aux fermetures était un fardeau pour l'économie du pays qui vit une situation très difficile. Le Botswana est tributaire du secteur minier dont il tire l'essentiel de ses revenus. Le Bénin a gagné une place dans le classement de l'édition 2017 de l'indice Mont Ibrahim de la gouvernance en Afrique, occupant ainsi le 14e rang dans le lot de pays bien gouvernés sur les 54 États d'Afrique. Le Bénin doit sa nouvelle place à son score de 59 sur 100 en gouvernance globale contre un score de 58,8 sur 100 en 2016 selon le classement rendu public lundi. Le score du Bénin est supérieur à la moyenne africaine et à la moyenne régionale pour l'Afrique de l'Ouest.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suspension à craindre pour un joueur sénégalais en Angleterre.
Oui, l'attaquant d'Everton Oumar Niass risque une suspension rétroactive de 2 matchs pour avoir plongé et obtenu un pénalty contre Crystal Palace. C'était samedi, match nul 2-2 en Première Ligue. C'est ce qu'annonce la fédération anglaise. S'il est reconnu coupable, le Sénégalais âgé de 27 ans deviendrait le premier joueur suspendu rétroactivement en Première Ligue.
Avant-dernière journée ce mardi en Ligue des Champions en Europe.
Le groupe E, qui est l'une des rares poules où aucune équipe ne s'est détachée, Liverpool en tête avec 8 points, n'a pas un déplacement facile sur la pelouse de son dauphin, Séville, 7 points. Pendant ce temps, le Spartak Moscou, 5 points, est en embuscade à l'heure de recevoir la modeste équipe slovène de Maribor. Manchester City, impressionnant en championnat d'Angleterre, est déjà qualifié dans sa poule F avant d'accueillir Feyenoord. Le Shakhtar Donetsk et Naples, qui s'affrontent ce mardi, vont donc se disputer la deuxième place du groupe. Monaco, en grand danger, n'a plus son destin entre les mains. Le club de la principauté doit absolument battre Leipzig dans le groupe G et espérer un faux pas de Porto sur la pelouse du Besiktas. Et puis Dortmund dans une situation plus que périlleuse dans la poule H. Tottenham et le Real Madrid sont presque déjà qualifiés. C'est simple, si les Madrilènes s'imposent sur la pelouse de l'Apoel Nicosie, ce qui est semblable, les Allemands devront oublier la Ligue des Champions cette saison.
Le football côté justice.
Oui, 3 anciens responsables du foot mondial qui ont tous plaidé coupables de corruption devant la justice américaine ont été suspendus à vie de toute activité liée au football par la justice interne de la FIFA. Richard Lai, ancien président de la Fédération de football de Guam, Julio Rocha, ex-président de la Fédération du Nicaragua et Rafael Esquivel, ex-président de la Fédération vénézuélienne, font partie des 42 anciens responsables du football et des sociétés de marketing mises en examen par la justice américaine dans le cadre du FIFA Gate, ce vaste scandale de corruption et dont plusieurs membres sont actuellement jugés à New York.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Et de 16, Boston a enchaîné une 16e victoire consécutive à Dallas, 110-102 après prolongation, grâce au récital de Kyrie Irving, 47 points. Cleveland a confirmé son retour en forme avec une nette victoire à Détroit, 116-88. Par ailleurs, Oklahoma City a concédé une nouvelle défaite, cette fois à la Nouvelle-Orléans, 114-107. San Antonio, victoire à domicile contre Atlanta, 96-85. Au contraire, ça va mal pour les Clippers de Los Angeles, 9e défaite d'affilée, cette fois sur le parquet des Knicks de New York 85-107.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Sénégal, l'opinion publique a appris avec surprise l'inculpation de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, par la justice américaine dans une affaire de corruption de hauts responsables africains. Candidat malheureux à la présidentielle de 2012, il était jusque-là très apprécié par ses compatriotes. Seydina Abagay.
Largement repris par la presse, l'annonce de l'inculpation de Cheikh Tidiane Gadio est assez surprenante pour le Sénégalais lambda. Pour Khadim Gaye, un jeune d'une vingtaine d'années, rien ne présageait cela.
Il n'incarnait pas quelqu'un de louche durant son magistère. Bon, on n'a pas entendu des problèmes de ce genre concernant cet homme. C'était quelqu'un qui boostait la diplomatie sénégalaise parce que le Sénégal avait beaucoup de partenaires.
Ministre des Affaires étrangères de 2000 à 2009, Cheikh Tidiane Gadio est vu comme une référence au Sénégal, comme l'indique Omar Boun Khattab Ndour, étudiant à l'Université de Dakar.
Cela me surprend. Vu la personnalité de l'homme, telle que nous l'avons connue durant les années où il a eu à gérer la diplomatie sénégalaise sous le régime de Wad. Il avait, durant toute cette période, donné une très belle impression en termes de comportement, d'attitude, mais aussi au niveau du travail. Nous avons de lui une très belle impression, ce qui fait certainement la grandeur de notre surprise par rapport à l'annonce de son arrestation.
Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale et collègue de Cheikh Tidiane Gadio au sein du gouvernement, affirme que ce dernier était exemplaire. Pour lui, il faut se montrer prudent car cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets.
C'est une grosse surprise, d'autant plus Gadio. C'est un ami, je veux dire, un collègue dans le gouvernement et puis un ministre qui a fait la fierté du Sénégal pendant une dizaine d'années. Mais il vient d'être député, puis un grand panafricaniste, responsable également d'un parti politique qui avait un discours formateur pour la jeunesse africaine et pour tout le monde. Je pense qu'il est présumé innocent. Nous n'avons pas sa version. Nous avons la version de ceux qui l'ont inculpé à travers la presse.
Président du mouvement panafricain et citoyen, Cheikh Tidiane Gadio a été élu député lors des élections législatives de juillet 2017. Son inculpation par la justice américaine est une grande surprise pour beaucoup de Sénégalais. Certains de ses collègues députés projettent déjà de mettre en place des actions afin de le soutenir. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Esclavage en Libye, que pensez-vous de la réaction des leaders africains? C'est la question posée ce soir dans À votre avis, en réaction à un reportage de CNN exposant la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Le président du Niger a appelé la CPI à se saisir du dossier. De son côté, le Burkina Faso a rappelé son ambassadeur en Libye. Les autres pays devraient-ils leur emboîter le pas? L'esclavage en Mauritanie ne suscite pas la même levée de boucliers. Pourquoi? Morgane Guériac en votre compagnie, réagissez en direct à 18h sur Universel en appelant le 001 202 205 26 33. À ce soir.
En Guinée, les cours dans les établissements primaires et secondaires sont perturbés depuis plus d'une semaine. Une grève déclenchée par un groupe de syndicalistes de l'éducation est partiellement suivie dans la capitale, où des élèves sont descendus dans les rues pour protester contre l'absence des enseignants dans les salles de classe. Notre correspondant Zakaria Camara nous en dit plus.
C'est une grève sauvage, des mots du ministre guinéen de la Justice pour dénoncer le caractère illégal et illégitime du mouvement. Ceux qui sont signataires de l'avis de grève sont suspendus de toute activité syndicale par leur organisation, précise à son tour le ministre de l'Éducation nationale. Après une semaine de grève, le bilan est inacceptable, a dit Ibrahim Khalil Konaté, ministre de l'Éducation nationale.
La grève est en train de faire des ravages. Je vous informe qu'une jeune fille de 10 ans a été violée par un enseignant dans la salle de classe. Quand on a venu jeter des cailloux, dans ce mouvement, les enfants ont fui. Il a récupéré la petite pour le faire rentrer dans la salle. Il l'a enfermé et il a fait quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Il y a une fille élève à l'école Africoff de Sangoya. Elle a perdu un œil par projectile ayant entraîné l'explosion du globe oculaire. Parce qu'il y a un élève qui est mort à Dabompa. Je pense que ça commence à être de trop.
Des manifestations violentes sont signalées à main endroit de la capitale. Des jeunes qui, pour ériger des barricades ou brûler des pneus sur la chaussée, provoquant ainsi une perturbation de la circulation. Face à la situation, Bourayma Kondé, ministre de l'administration du territoire qui parle d'incitation à la révolte, appelle les administrateurs territoriaux à plus de vigilance.
Les écoles sont toutes dans une certaine circonscription. Faites en sorte que la délation n'est pas raison du réalisme pour lequel vous êtes là pour défendre les intérêts de vos collectivités. Mon appel est celui d'un contrôle de proximité, d'une sécurisation de proximité. C'est vrai que l'État ne va pas croiser les bras pour que des individus défendant ce qu'ils appellent leurs intérêts contre ceux du peuple de Guinée exposent nos enfants.
Quatre enseignants ont été libérés après une courte interpellation. Ces grévistes accusent les autorités administratives d'être responsables des conséquences de la grève. Amadou Massa Doumbouya et ses collègues sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications.
Jusqu'à l'heure où nous sommes, aucune porte n'est ouverte pour les négociations. Les gens restent radical sur leur point, pas essayer de prendre ce mouvement syndical-là au sérieux. Depuis 2007, au temps du général Lansana Kwante, un régime militaire nous donne une valeur monétaire d'indice à 1030. Un président civil vient et nous retire ça. Il faudrait que les gens sachent que ce n'est pas une augmentation. Et c'est pourquoi nous sommes radicaux par rapport à ce point-là.
Des manifestations ont été encore signalées ce matin dans la capitale avec un blessé par balle. La victime a été touchée à la tête. Selon plusieurs témoins, Conakry Zakaria Camara pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Une centaine de migrants ivoiriens bloqués pendant des mois en Libye sont arrivés hier soir à Abidjan. Les précisions de notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tunkara.
C'est aux alentours de 19h GMT que l'appareil qui transportait ces migrants, au nombre de 155, donc entre 29 femmes, a foulé la piste de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des migrants soulagés d'avoir quitté la Libye, un pays que certains d'entre eux qualifient de véritable enfer. Moussa Traoré, 21 ans.
Je suis très content parce que je viens de l'enfer.
Et pourquoi vous dites que vous venez de l'enfer?
Parce que la Libye n'est pas un bon pays, un pays très 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 dangereux. C'est la prison seulement. La prison, c'est pas une petite prison.
La prison, c'est-à-dire, vous étiez en prison?
Oui, j'étais en prison en Libye.
Et qui vous a mis en prison?
Les Libyens.
Pourquoi?
Une cause non valable.
Vous avez été maltraité, hein?
Maltraité partout.
Niadou Niapo se présente comme le porte-parole de ces migrants ivoiriens rapatriés de Libye, content certes d'être à Abidjan, mais il a une pensée pour ses camarades et tous ces jeunes Africains bloqués dans ce pays.
On était en train de bosser, c'est là qu'ils sont venus ramasser les gens. Parce qu'il y a chez eux, lorsque tu vois des noirs, c'est des gens qui coûtent assez d'argent. Et il y a certaines filles aussi qu'ils ont pris, violées dans des coins. En tout cas, c'est du désordre. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas tous ici. Parce qu'on a laissé encore des frais derrière. Et ce qu'on a laissé derrière, on se pose plein de questions. Parce qu'on sait, on connaît la réalité de là-bas. Donc on sollicite un peu le gouvernement de précipiter les choses. On sollicite aussi OIM de précipiter les choses. Et on sollicite les communautés et les pays voisins. Parce qu'on n'était pas les seuls. Il y avait des Guinéens, il y avait des Burkinabés. Tous ceux qui sont noirs, qui sont d'Afrique de l'Ouest, je pense bien qu'on était tous là-bas. Donc je fais appel quand même à ce président-là.
Quant à cette dame, elle déplore les conditions de son rapatriement.
Ça me désole d'être au pays comme ça. J'ai au contraire rentré un jour au pays, mais pas comme ça.
Donc vous n'êtes pas contente d'avoir été rapatriée?
Oui. Je vais payer mon billet d'avion, puis venir voir ma famille en Côte d'Ivoire, mais pas être rapatriée. Quand on est rapatrié, on vient avec un sachet. Pourtant, je suis reparti avec une valise. Je ne peux pas venir avec un sachet. Et puis, mon enfant comme ça, sans chaussures, rapatrié comme ça, je ne suis pas content du tout.
Pour la prise en charge et la réinsertion de ces migrants, la Côte d'Ivoire peut compter sur un fonds mis à sa disposition par l'Union européenne. Issiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur.
Alors la prise en charge, il y aura plusieurs étapes. D'abord, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui éligible au fonds fiduciaire de l'Union européenne. Nous, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est le profilage des migrants, les raisons de départ. Nous allons offrir un hébergement de courte durée, peut-être de 3 à 4 jours, dans des zones que nous allons déterminer. Nous seuls savons où nous allons mettre ces personnes qui seront dans d'excellentes conditions d'hébergement, et grâce à l'appui de l'Union européenne, aussi de l'OIM. Et nous allons ensuite continuer, parce qu'il y a le projet de réintégration des migrants, qui est d'une valeur de 2,7 millions d'euros et qui concerne 750 migrants, dont 550 peuvent provenir d'un pays d'Afrique et 200 de l'Europe. Donc ces personnes qui viennent d'arriver sont éligibles au projet du fonds fiduciaire. Ils pourront nous soumettre des projets individuels ou collectifs que nous pourrons prendre en charge après le profilage.
Est-ce que vous continuez en Libye, là-bas, de sensibiliser les Ivoiriens qui y sont ?
Écoutez, nous, on continue la sensibilisation.
Le gouvernement ivoirien prévoit un autre rapatriement ce mercredi 22 novembre. 260 migrants sont concernés par ce retour au pays. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis ont décidé de fermer la représentation de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, à Washington. Une décision très mal accueillie par les Palestiniens qui ont décidé de geler les rencontres avec les officiels américains après cette annonce de l'administration Trump. Comment explique-t-on cette fermeture ? John Linden a posé la question à Frédéric Ancel, qui enseigne les relations internationales à Sciences Po Rennes.
Le président Trump, même si sur beaucoup de sujets dit à peu près n'importe quoi, il a quand même quelques constantes. Et parmi ces constantes, et on l'a vu depuis la visite de Netanyahou à Washington le 15 février dernier, parmi les constantes, c'est non seulement le maintien de la très grande proximité avec Israël, même si encore une fois, les attendus et les fondements de cette position chez Trump ne sont pas très cohérents, c'est quand même le maintien de cette position très favorable à Israël, d'une part, et d'autre part, une véritable gêne dans l'accord, et là on a quelque chose de plus cohérent tout de même du point de vue américain, dans l'accord de conciliation nationale, on va l'appeler comme ça, entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Bon, le Hamas est considéré par les États-Unis, comme par Israël d'ailleurs, comme un groupe terroriste. Et de ce point de vue-là, la représentation palestinienne aux États-Unis ne pouvait pas, évidemment, ne pas souffrir de la position traditionnelle américaine qui est la suivante, non au Hamas, pas de négociation et pas de reconnaissance de ce groupe terroriste.
Et du coup, les Palestiniens ont décidé d'annuler les rencontres avec les autorités américaines. Est-ce que ça arrange les choses ?
Non, ça n'arrange rien, mais est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport de force, il n'est clairement pas en faveur des Palestiniens, c'est même le moins qu'on puisse dire. D'abord parce que les États-Unis demeurent la première puissance mondiale, y compris au Moyen-Orient. Et d'autre part, parce que dans la région, les soutiens traditionnels de la cause palestinienne, notamment les soutiens arabes, ne s'y intéressent pas. Donc Mahmoud Abbas se retrouve seul. Alors, il ne pouvait pas faire autrement que de se retirer de ces discussions, mais en même temps, ça ne lui rendra absolument aucun service parce que les Américains se fichent complètement que les Palestiniens acceptent de les rencontrer ou pas.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme implication au niveau de la Palestine sur cette décision ?
Au quotidien, je ne pense pas qu'il y aura une quelconque implication. Je veux dire par là que les États-Unis n'ont pas décidé de prendre des sanctions lourdes de type notamment économique ou bancaire.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut ramener les deux acteurs à un dialogue plus apaisé ?
Ça serait un changement de gouvernement en Israël, ce serait un changement de présidence aux États-Unis. Si le Hamas ressort une nouvelle fois d'une coalition avec l'autorité palestinienne, peut-être qu'on retrouvera une négociation entre les deux parties, mais j'y crois assez peu en fait.
Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient, enseigne à l'Institut d'études politiques de Rennes en France. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.